Angela de Malherbe défend une cause difficile. Mais on voit de plus en plus de gens qui, aux diverses méthodes dites naturelles, se rangent à ces idées qu'elle n'est certes pas seule à défendre. Dans les actes d'un important congrès de la famille qu'elle a organisé à Paris, fait les textes de gens éminents qui appuient ses dires sur l'avortement, la limitation des naissances. Angela de Malherbe est interviewée par Marcel Brisebois, qui n'hésitera pas à formuler ses questions d'après ceux qui pensent le contraire.
Angela de Malherbe, vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle Provie. J'aimerais savoir quelle est votre position face aux grossesses non désirées.
Peut-être qu'il y a justement beaucoup de grossesses non désirées à l'heure actuelle parce qu'il y a une très grande promiscuité entre les jeunes. Et une des raisons pour laquelle cette grande promiscuité existe, c'est à cause du fait que les méthodes de contraception sont rentrées sur le marché depuis au moins une vingtaine d'années. L'enfant devient une gêne parce que on imagine que l'enfant empêche de prendre du temps pour soi, que la mère doit pouvoir choisir d'avoir un enfant quand elle veut et comme elle veut. Et je crois que c'est une très très grande erreur. Si beaucoup de femmes savaient ce que la contraception fait dans leur corps et dans leur psychologie, elles n'y toucheraient pas. D'ailleurs, regardons un petit peu la pilule. La pilule, on le sait maintenant, amène avec elle énormément de contre-indications. La liste est trop longue, on pourrait en parler, je n'ai pas toutes les choses avec moi en ce moment, mais je peux vous dire que ce que beaucoup de femmes ne savent pas, c'est que la pilule, au fond, bloque l'hypophyse. Qu'est-ce que c'est que l'hypophyse ? C'est une glande à la base du cerveau. Or, la médecine ne sait pas encore tout ce qui se passe dans le cerveau. Or, on peut dire que la pilule est le seul médicament qui va contre la nature, qui bloque le cycle de la femme pour lui empêcher d'avoir un enfant.
Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'une grande partie de la stérilisation vient du fait que précisément on a pu déjouer les mouvements de la nature? Un avion ne volerait pas si, ne tablant pas sur les lois de la nature, on n'arrivait pas à déjouer finalement les lois de la gravité. Il en va de même, par exemple, de tous les progrès précisément que l'on accomplit dans le domaine médical. Ce qui nous est donné en tant qu'homme, précisément, c'est à la fois de comprendre la nature et aussi de la mettre au service de notre intelligence et de nos projets.
Tout à fait. Je crois que c'est tout à fait vrai et c'est une merveille que de voir que la technologie actuelle permet justement de défier certaines lois de gravité, notamment dans les moyens de communication par la voie des airs. Et j'ai eu l'occasion une fois de voler sur Concorde et j'ai trouvé que c'était absolument fabuleux. Mais il n'est pas du tout la même chose quand on parle du corps humain.
Pourquoi ?
Parce que le corps humain est appelé à vivre. Et la médecine, enfin, rappelez-vous du serment d'Hippocrate, je ne peux pas vous le citer par cœur, mais tout médecin est appelé à soigner l'être humain, à soigner le corps, pour lui permettre de vivre. Or, qu'est-ce qui se passe avec la pilule ? C'est une chose qui est contraire à la vie, parce que c'est empêcher la vie. Et étant donné que tout amour doit être fécond, et en particulier l'amour conjugal, bien sûr, je sais qu'il y a des choses très, très pénibles, il y a des ménages qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Et ça, c'est un problème très, très pénible. Mais là encore, il y a des choses merveilleuses. Et vous avez des hommes et des femmes mariés qui ne peuvent pas avoir d'enfants et dont le cœur est tellement généreux en amour qu'ils adoptent un enfant qui, lui, a été privé de cet amour et le lui donne. Mais, dans le congrès que nous avons organisé, nous avons donné une journée entière à parler des méthodes naturelles de régulation de naissance. Je crois que personne n'est appelé à mettre au monde une quantité d'enfants un peu comme...
Donc vous ne défendez pas l'idée de la vie à tout prix et n'importe comment et...
Absolument pas. Je suis pour ce que j'appellerais la paternité responsable. C'est-à-dire, un homme et une femme s'aiment, ils se marient, et c'est à eux-mêmes de décider, dans leur conscience. C'est leur liberté la plus fondamentale de savoir combien d'enfants ils veulent mettre au monde, combien d'enfants ils désirent mettre au monde et combien d'enfants ils peuvent éduquer. Mais là, vous savez, quand un homme et une femme s'aiment vraiment, en général, ils ne mesurent pas.
Enfin, on a des ressources, on a un salaire, on a des moyens. Par exemple, on dispose d'un... surtout dans les cités nord-américaines, d'appartements qui sont relativement réduits, où très souvent on a à peine à se loger soi-même.
Oui.
On n'a pas l'espace vital. Alors donc, il y a des contraintes qui...
Je crois que ce n'est pas une raison. Ça me paraît toujours une chose terriblement paradoxale de voir nos pays riches où les gens sont capables de s'acheter beaucoup de gadgets, de partir pour les sports d'hiver, de partir dans les pays chauds au moment de l'hiver, et qui souvent se privent d'un enfant en disant « mais si nous avons des enfants, nous ne pourrons pas faire ces choses-là ».
Mais c'est au nom de la qualité de la vie à ce moment-là.
Mais vous croyez franchement que partir au sport d'hiver, ça apporte plus qu'un enfant? Je crois qu'on pourrait se poser des tas de questions là-dessus. En tous les cas, il y a une chose que je sais, que j'ai appris. Beaucoup de gens pensent que la contraception évite l'avortement. Or, il y a des statistiques qui prouvent que dans les pays, ça s'est fait au Japon, ça s'est fait dans les pays scandinaves et même maintenant dans d'autres pays, et ça a été prouvé que là où on fait des campagnes massives pour promouvoir la contraception, il y a un effet d'escalade. Et quand la contraception ne marche pas, c'est l'avortement. Et on pourrait dire que, puisqu'on accepte l'avortement dans beaucoup de pays riches, hélas, eh bien, nous pouvons dire qu'à ce moment-là, nous sommes tous des avortés. Parce que si on tue la vie conçue dans le corps de la femme, si on tue ce petit être dont la science a maintenant prouvé qu'il vit depuis le moment de la conception, eh bien, nous sommes tous des avortés. Parce que le jour de demain où on jugera que vous et moi, nous ne sommes plus utiles, entre guillemets, à la société, qui est-ce qui empêcherait quelqu'un de nous donner une piqûre et nous envoyer au-delà? Vous voyez, je crois que si on parle du respect de la vie, on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. On le respecte depuis le moment de la contraception, de la conception, jusqu'à la mort naturelle. Ça a été prouvé aussi que la contraception mène à l'avortement et l'étape suivante, c'est l'euthanasie.
Mais est-ce que vous voulez dire par là que... la conception, l'avortement serait un moyen de contraception parmi d'autres et pas plus grave qu'un autre?
Je crois que je suis sûre que l'un mène à l'autre. Et j'ai grand peur que l'avortement est utilisé comme un moyen de contraception dans certains cas. Mmh. Et ce qui est très pénible, j'ai eu le cas autour de moi il y a à peine 10 jours. Je connais une jeune fille qui fait des études avec ma fille, dont la sœur de 18 ans était enceinte. Eh bien, sa sœur aînée, que je connais, a téléphoné à la maison en disant « Madame de Malherbe, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose ? Ma petite sœur de 18 ans est enceinte et ma famille voudrait qu'elle se fasse avorter. » Or, c'est une famille qui est tout à fait, qui a tous les moyens nécessaires, mais la famille n'était pas d'accord avec le jeune homme, etc. Bon, je crois que c'est une tragédie terrible de voir une famille qui n'entoure pas sa fille qui avait conçu un enfant. Bon.
Mais est-ce que cette jeune fille voulait cet enfant ou c'est un pur accident?
Je crois que cette jeune fille aurait gardé l'enfant, même je suis sûre, si sa famille l'avait entourée en lui disant « on fera tout pour t'aider à le garder ».
Et si le garçon...
Et le garçon voulait l'enfant aussi. Et ils avaient l'intention de se marier. Mais je crois qu'il y avait une question, que la famille n'était pas tout à fait d'accord avec le garçon. Mais enfin, elles auraient pu essayer de s'entendre. Ce qui m'a profondément choquée dans l'histoire, c'est que c'est la propre maman de cette jeune fille qui, malgré toutes les démarches que j'ai faites pour essayer de l'éviter, a conduit sa fille à l'avortoir, à la clinique pour l'avortement. Alors, ça rejoint d'autres témoignages que j'ai reçus de la part d'une femme qui a sauvé des centaines d'enfants de l'avortement. Et elle m'a dit que c'est souvent l'entourage qui pousse la jeune femme à avorter, au lieu de l'aider, justement. On peut pas remédier à une situation aussi dramatique soit-elle par un meurtre.
Je veux bien que souvent, enfin je vous concède, bénéfice de la discussion, je vous concède que très souvent l'entourage pousse la mère, la jeune mère, à aller à l'avortement. Mais est-ce qu'il n'y a pas des cas où précisément la jeune femme se trouve abandonnée? La jeune femme a eu une relation, a eu un ami, on a eu des relations sexuelles, et puis finalement on découvre qu'elle est enceinte, on le déclare au père de l'enfant ou au présumé père de l'enfant. Ça existe aussi, étant donné la multiplicité souvent des relations que une jeune femme peut avoir avec des garçons. Mmh. Et puis le garçon dit, mais non, il n'y a pas question, je ne me sens pas capable de devenir père actuellement. Donc on était bien d'accord pour avoir une relation sexuelle que l'on estimait épanouissante, libérante, jusqu'à un certain point responsable, mais pas au point d'avoir des enfants. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on fait devant des choses pareilles?
Et justement, je crois qu'il y aurait beaucoup moins de grossesses en dehors du mariage, parce que là aussi, il est question de responsabilité, n'est-ce pas? On ne peut pas mettre au monde un enfant n'importe comment. C'est pour ça que, étant donné une certaine désinformation à l'heure actuelle qui pousse les jeunes à avoir des relations sexuelles où ils croient trouver un épanouissement, s'il n'y a pas une prolongation de cette relation dans l'amour, une relation sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire?
Mais enfin, madame, à ce moment-là, vous demandez une maîtrise presque surhumaine à des êtres qui sont jeunes, qui sont passionnés, qui sont pleins d'émotions.
Je ne crois pas que c'est une chose surhumaine, vous savez. Regardez les athlètes qui se préparent pour des Jeux olympiques ou pour courir dans une course. Ils mènent une vie d'une très grande ascèse pour se préparer à ce genre de performance. Alors pour une chose qui engage la vie, qui engage l'amour d'un être, vous savez, quand on aime quelqu'un, on aide cette personne à vivre. Pour le congrès que nous avions organisé sur la famille, j'avais voulu avoir comme sigle la fécondité de l'amour, parce que tout amour est fécond. L'amour de l'amitié, vous savez très bien que quand vous avez des amis qui vous aiment beaucoup, vous donnez le meilleur de vous-même. Un enfant qui se sent aimé, il donne le meilleur de lui-même. Dans le mariage, c'est la même chose. Je sais que par l'amour que mon mari a pour moi, ça me permet de vivre. Ça me permet de donner le meilleur de moi-même. Et également, je sais que l'amour que j'ai pour mon mari l'a aidé à vivre, lui. L'a aidé à vivre sa vie professionnelle et sa vie d'homme. Il me l'a dit souvent. Et quand ça ne va pas, et quand on est là l'un pour l'autre, pour se soutenir, c'est ça dont on a besoin.
Mais certains pourraient vous dire, madame, que vous vous inscrivez à ce moment-là dans une ligne de déterminisme naturaliste, et que ce que vous refusez, au fond, c'est le choix, c'est la liberté, c'est l'option épanouissante, et que vous acceptez toutes les contraintes inscrites dans un ordre naturel que tout le développement scientifique, et je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que tout le développement scientifique nous a conduit à surmonter? Est-ce que précisément il vaut pas mieux, vous diront certains, je vous dis un discours que j'entends autour de moi, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux choisir d'avoir des enfants, le nombre d'enfants que l'on veut, de les programmer, et même si possible, et on y vient, d'avoir des enfants, bon, si on a un certain modèle idéal d'enfant blond de 1m80 aux yeux bleus, etc. Enfin, on vient à ça. Est-ce que
écoutez, moi je ne sais pas, mais j'aime beaucoup penser que quand un homme et une femme s'aiment, il y a beaucoup de poésie. Or, la poésie et l'amour, ce ne sont pas des choses qu'on détermine.
Mais la poésie ne fait pas vivre.
Non, mais il faut quand même une certaine poésie pour jouir de la vie, pour rêver. Nous avons besoin de rêver à l'amour. C'est pour ça que j'estime que, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, les jeunes à qui on a fait croire qu'une liaison, un acte sexuel par-ci par-là peut être épanouissant, ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vécu dans l'amour et si ça ne donne pas lieu à un amour qui est amené à se perpétuer, ça va être peut-être un petit goût de quelque chose qui aurait pu être un grand amour. Mais si c'est une chose passagère, on ne peut pas appeler ça.
Nous parlons des jeunes et je ne veux pas les rendre responsables de tout. Il y a quand même des couples mariés aussi qui ont eu des enfants qui sont arrivés à un certain moment dans leur vie et où tout à coup la femme découvre qu'elle est enceinte et qu'elle croit, et le mari également croit, que cet enfant n'est pas possible. Est-ce que vous ne croyez pas à ce moment-là que l'avortement peut être une solution?
Écoutez, moi, l'avortement est un meurtre. Ça a été prouvé à l'heure actuelle par toutes les méthodes hautement sophistiquées que l'on a pour observer le fœtus dans le sein de sa maman. Et moi, je crois que aucun meurtre n'est justifié. Vous savez, on a parlé souvent et nous avons vu beaucoup d'émissions à la télévision et nous avons lu dans les journaux beaucoup de témoignages absolument poignants et douloureux. Je crois que c'est peut-être la chose la plus douloureuse qui se soit produite au moment de la dernière guerre mondiale, c'est-à-dire l'Holocauste et les morts dans les camps de concentration, ces génocides qu'on a pratiqués contre les juifs et contre beaucoup de chrétiens aussi. Mais quand j'entends parler comme ça, quand j'entends parler de la bombe atomique et de tous les meurtres qui ont été commis à ce moment-là, par cette énorme catastrophe, je dis, mais regardez autour de vous. À l'heure actuelle, on est en train de vivre le plus grand génocide de tous les temps. C'est-à-dire qu'on a tué par avortement beaucoup plus que les morts dans les deux guerres mondiales et les deux bombes atomiques. Par l'avortement, justement, et la contraception. Et qu'est-ce que c'est? Je dirais que l'avortement et la contraception, ce sont des industries nécrologiques. Vous savez que la contraception enrichit beaucoup de gens. À l'heure actuelle aux États-Unis, ça fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 milliards de dollars par an aux États-Unis. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a 2 ans aux États-Unis, 2 firmes pharmaceutiques très connues ont failli fermer leurs portes. En tous les cas, elles ont dû arrêter de fabriquer des stérilets. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes, des milliers et des milliers de femmes, avaient eu des maladies et des infections suite à avoir porté des stérilets. Alors, elles ont poursuivi ces 2 firmes par des milliers de poursuites judiciaires, à tel point que les assurances ne voulaient plus couvrir ces firmes et ils ont été obligés d'arrêter la fabrication des stérilets. Bon. Ça a arrêté la fabrication, mais il y avait des stocks qui restaient. Alors, ce qui n'était plus bon pour les femmes américaines, on l'a envoyé dans les pays en voie de développement pour les imposer à des femmes en Afrique ou en Asie. Moi, je trouve ça absolument épouvantable d'imposer une telle attitude impérialiste par voie de la contraception. Moi, je trouve ça absolument aberrant. On parle de la liberté, mais quelle horreur! Alors, vous voyez, donc, la contraception est une industrie. Et je vous dirais qu'à l'heure actuelle, il y a des méthodes naturelles de régulation de naissance qui sont tout à fait, qui ne coûtent de l'argent à personne et qui sont aussi efficaces que la pilule. Ça a été prouvé. Je parle, par exemple, de la méthode de l'ovulation qui a été mise au point par les docteurs Billings en Australie. Ces médecins enseignent cette méthode dans plus de 100 pays à l'heure actuelle. Et en 1979, l'Organisation mondiale de la santé a mis au point une étude multinationale sur 5 pays. Au bout de 5 ans, ils ont pu déclarer que cette méthode dite de l'ovulation, qui permet à la femme de reconnaître exactement quand elle est féconde et quand elle ne l'est pas, eh bien, cette méthode est à 98% efficace, c'est-à-dire à égalité avec la pilule. Mais avec l'avantage de n'avoir aucune contre-indication physiologique ni psychologique, d'être acceptable par toutes les confessions et toutes les cultures, et avec le grand avantage de donner un beaucoup plus grand épanouissement affectif et sexuel au couple.
Est-ce que certains ne vous diraient pas, ne vous répliqueraient pas, que telle méthode réduit la femme à être un objet médical, d'une part, et d'autre part, n'est-ce pas, qu'une telle méthode nie ce qui est quand même important dans l'amour, la passion, l'élan?
Je dirais que la femme devient un objet tout à fait quand il est question de contraception. Parce que à ce moment-là, il n'y a plus, ça réduit la poésie dans l'amour. C'est-à-dire que l'homme, comme je disais tout à l'heure, accepte que cette femme ampute quelque chose en elle, qu'elle bloque son cycle. Donc, ça tue quelque chose dans l'amour. Parce que quand on aime, on doit pouvoir aimer la personne tout entière, avec tout ce qu'elle a de biologique et d'intellectuel, etc. Alors, ceux qui, par contre, ne gênent aucunement la poésie et la passion, ce sont les méthodes naturelles. Parce que ça respecte la nature. Bien sûr, si un couple doit espacer les naissances pour raison de maladie ou d'impossibilité temporaire de fatigue de la femme, donc elle doit remettre sa grossesse à plus tard, ou même pour des questions de manque de logement, ou que sais-je, il y a toutes sortes de raisons. Eh bien, là, si le couple doit espacer les naissances, il faut justement réserver les actes conjugaux et sexuels pour le moment du cycle qui est stérile, pour le moment stérile du cycle. Donc, ce n'est pas aller contre la vie, vous voyez. Et ce moment de chasteté dans le mariage n'est pas une chose à vivre de manière négative. C'est en quelque sorte une manière de revivre les fiançailles, parce que dans ces moments où on accepte de ne pas avoir des actes sexuels, on dit son amour autrement, on s'aime autrement, c'est-à-dire par des gestes, par des paroles, on trouve d'autres moyens de se dire son amour. Et alors, je dirais encore que cela donne une très grande fraîcheur à l'acte sexuel. Vous savez que la pilule et tout ça, à force de pouvoir se dire, bon, on peut s'unir quand on veut, est-ce que ça ne peut pas donner une certaine routine à cet acte tellement beau, tellement magnifique, qui permet à l'homme et à la femme de s'unir totalement? Vous voyez, je crois qu'il faut rejeter tout un tas de désinformations sur ces choses-là. Et si je vous parle, comme je vous parle, de ces méthodes naturelles, c'est parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens qui l'enseignent, non seulement dans les pays riches, mais aussi dans les pays en voie de développement. Et tous m'ont dit, nous connaissions des couples qui n'étaient même pas mariés et qui ont découvert la beauté de ces méthodes naturelles pour réguler les naissances dans leur famille, ils sont allés se marier par la suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé une très grande unité grâce à ces méthodes.
Est-ce que vous ne croyez pas que ce discours ne peut être entendu que par des personnes qui ont une éducation supérieure ou tout au moins des aptitudes intellectuelles ou volontaires qui sont hors du commun?
C'est une excellente question. C'est d'ailleurs la question que je me suis posée moi-même quand j'ai rencontré certains médecins qui prônaient ces méthodes naturelles. Et j'ai découvert depuis que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, souvent les personnes soi-disant très civilisées, très intellectuellement développées, sont très loin des rythmes de leur corps. Alors que les personnes dans les pays en voie de développement qui sont plus près de la nature acceptent beaucoup plus de vivre en harmonie avec leur cycle. Enfin, les femmes dans ces pays-là acceptent tout à fait les différents moments de leur cycle parce qu'elles sont beaucoup plus en harmonie avec la nature. Alors je dirais qu'il faudrait que nous autres qui habitons les pays plus riches, mais peut-être plus conditionnés par la technologie, nous retrouvions le rythme du corps humain. Vous voyez, j'ai eu l'occasion de parler autour de moi à des jeunes. J'ai enseigné ces méthodes naturelles à mes deux filles. J'en ai une qui est mariée. Et une qui est fiancée, eh bien, toutes les deux sont ravies parce qu'elles ont découvert leur corps. Elles ont découvert qu'elles étaient capables tout à fait de reconnaître les moments où elles étaient fécondes, où elles étaient capables de donner la vie, et d'autres moments où elles ne pourraient pas, parce que ce n'est pas inscrit dans leur cycle. Vous voyez, je crois qu'il y a là une très grande beauté, une chose qui est magnifique dans la nature de la femme et qu'il faut redécouvrir, et Dieu soit loué, les hommes de science et certains grands médecins de notre temps ont pu établir ces méthodes naturelles qui existaient depuis toujours dans la nature, mais dont les bases scientifiques n'étaient pas reconnues. C'est maintenant chose faite, et je dirais que c'est une chose tout à fait providentielle, parce que ça évite d'amputer certaines choses dans le corps humain en ayant recours justement à des méthodes naturelles qui permettent d'espacer les naissances sans porter atteinte à la vie et sans porter atteinte à la dimension totale de l'amour.
Angela de Malherbe, je vous remercie.
Rappelons que les actes du 9e congrès de la famille organisé par Madame de Malherbe ont été publiés chez Fayard. Quant à la méthode Billings sur le contrôle naturel de la fécondité, ce livre est paru chez Mediapol ou les éditions Pauline. On pourra lire Maternité sans frontières du professeur Jérôme Lejeune et de Geneviève Pouliot, qui est responsable en France de SOS Future Mère. Ce livre est paru chez VAL en 86. On pourra enfin consulter l'intéressant numéro de la revue québécoise RND consacré à l'avortement et paru au cours de l'été 88.